9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On a retrouvé le docteur Delabo aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour docteur Delabo.
Bonjour Philippe, bonjour vous autres, bonjour toutes, bonjour tous, bonjour à tous et à toutes, et bonjour à Mohamed. Attention Mohamed, le chocolat de soir, quand on croit que le docteur ne va pas le savoir, c'est pas une bonne idée. Je te souhaite une bonne journée Mohamed, mais attention, faut être sérieuse, parce que j'ai mon petit doigt qui m'a dit des trucs sur le chocolat du soir.
Très bien, vous avez un petit chat dans la gorge, docteur Delabo.
C'est pas un chat, c'est tout le troupeau que j'ai.
Bon alors, attendez, prenez, prenez un
mouton,
peu de...
Le mouton, les bergers et le chat avec.
Prenez un peu de chaud, allez-y.
Ah oui, je vais prendre voilà. du chaud.
Comme ça, on va pouvoir
profiter. Ah, c'est trop chaud.
Oui, bah attendez, soufflez, faites... Voilà, vous soufflez. Et on va pouvoir démarrer.
Je ne souffle jamais parce que souffler n'est pas joué, Philippe.
C'est vrai. Ah, ça va beaucoup mieux. Votre voix a retrouvé son souffle. Allez, docteur Delabo, on va démarrer avec votre semaine santé. Avec lundi, un grog pour lutter contre le refroidissement.
Ouais, soyez rassurés, hein, c'est un grog sans alcool. De l'eau bien chaude avec de la cannelle, du miel et des herbes aromatiques. Donc, absolument aucun danger de s'alcooliser. Et il n'est pas moins efficace que le grog à base d'alcool. En fait, c'est un peu le Canada Dry du drogue. On a les mêmes sensations, mais pas le même risque d'effet secondaire. Et c'est tout aussi efficace, car l'important dans un grog, c'est la chaleur qu'il apporte au niveau du larynx. Ce qui veut dire que boire un café ou un thé bien chaud reviendra exactement au même que vous mettiez ou pas de la cannelle dedans. Ceci posé, il faut avouer que le miel est un excellent protecteur et un très bon désinfectant de la gorge.
Ah, reprenez un peu de chaud là, parce que je suis pas très sûr que... Non, le troupeau là...
Mais de toute façon, comme le dit le dicton populaire, il n'y a que la foi qui sauve. Oh, ça fait... J'espère que ma voix vous trouble pas trop, hein.
Bon, docteur Delabo, d'où vient cette idée que le grog, ça serait bon pour le...
Mais c'est parce que c'est chaud.
Ça réchauffe, c'est tout. Il n'y a aucune vertu.
L'alcool réchauffe énormément le corps pendant un bon moment. Mais
ça soigne pas.
Non, mais il faut savoir. Ça permet d'avoir une chaleur intense qui se répand dans le corps. Parce que ça provoque une vasodilatation intense des vaisseaux. Mais il faut savoir que quand l'effet de l'alcool est arrêté, alors là, on pèle de froid. J'en ai fait l'expérience une fois. Au Gabion, le Gabion, c'est là où on chasse les canards en Baie-de-Seine. Il faisait un froid intense, un bon grog, ça va très bien. Il n'y avait plus de grog, j'ai pelé de froid pendant toute la nuit. Donc, les grogs, c'est terminé, à tout jamais. Depuis
bien.
60 ans.
Hein. On peut faire des grogs sans alcool, c'est la bonne nouvelle.
Mais oui, bien sûr.
Mardi, plus de maladies du foie dans les régions froides.
Plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais malheureusement qu'il y en a plus. Bon, je peux pas m'empêcher de rire en disant qu'à cause du froid, on boit plus d'alcool et que ça abîme le foie. Avouez qu'il y a franchement de quoi rigoler. Rien n'empêche, dans quelques régions du monde que ce soit, de ne pas boire d'alcool, ou du moins d'en boire raisonnablement, ou à l'inverse, d'en boire beaucoup trop. Car, s'il est tout à fait vrai que boire de l'alcool abîme le foie, il n'y a pas besoin qu'il fasse froid pour en boire beaucoup. Conclusion, n'en déplaise aux gens qui ont fait cette étude, il s'agit plus d'un fait de société qu'une incidence liée au froid. Bon, je trouve un petit peu léger d'accuser le froid, alors qu'il suffit tout simplement de boire chaud pour lutter contre lui.
Mercredi, un œuf par jour pour lutter contre le cholestérol. Voilà du nouveau.
Ben oui, c'est du nouveau. Enfin non, c'est du nouveau sans être du nouveau, Philippe. J'ai déjà lu ça, c'est un petit peu un marronnier. J'allais dire un châtaignier parce que c'est la saison, mais c'est un marronnier. S'il suffisait de manger un œuf tous les jours pour lutter contre le cholestérol, nous n'aurions plus de soucis à nous faire en ce qui concerne ce trouble métabolique particulièrement dangereux à partir de 50 ans chez les hommes et même 45 ans chez les femmes. Soyons clairs, manger un œuf le matin n'est pas dangereux, mais ce n'est sûrement pas ça qui vous guérira du cholestérol, surtout si vous avez comme moi une hypercholestérolémie génétique et que pour vous, le colon d'œuf sera à ce moment-là un véritable poison. Sans oublier que s'il n'est pas dangereux le matin, il est redoutable le midi et c'est un véritable poison le soir quand on souffre d'une hypercholestérolémie, même si elle est fonctionnelle, c'est-à-dire quand elle est de votre faute.
Je dis les rideaux de douche cancérigènes, voilà autre chose.
Ça, j'ai franchement rigolé, j'étais mort de rire. C'est pas la première fois, j'ai déjà vu l'article une fois. Il faut quand même pas exagérer, c'est pas parce que vous avez un rideau de douche en plastique que vous allez mourir d'un cancer du poumon, de l'intestin ou du foie. Si c'était le cas, il faudrait absolument que vous ne buviez plus jamais de boisson contenue dans une bouteille plastique, que vous ne mangiez plus avec des couverts de planqui de camping également en plastique, et que vous n'achetiez surtout plus aucun produit contenu dans un film plastique. Conclusion, c'est peut-être vrai, mais franchement, accuser les rideaux de douche d'être cancérigènes, c'est comme d'accuser le pet des vaches d'être responsable de la destruction progressive de la couche d'ozone. Et oui, C'est pour celles qui ne le savent pas et ceux qui ne le savent pas, on a accusé des scientifiques très sérieux, on dit que le pet des vaches détruisait la couche d'ozone. Alors, très franchement, ça tourne vraiment à la connerie intégrale, ce genre de réflexion.
Bien, mais pour tout ce qui est, docteur Delabo, couverts en plastique, gobelets en plastique, ils vont disparaître. Hein. Bientôt, il n'y en aura plus.
Mais il vaut mieux, c'est vrai. Mais au lieu d'accuser les rigolos de douche, qu'on commence d'abord par enlever les gobelets en plastique, t'as entièrement raison. As-tu vu cette photo absolument atroce? Je te l'ai envoyée, non? Tu l'as reçue? C'est abominable, cet oiseau dont l'intestin est absolument rempli d'une dizaine de trucs en plastique, plus ou moins gros les uns que les autres. C'est épouvantable à voir.
Vendredi, c'est la saison, la liste des aliments anti-fatigue.
Oui, des aliments anti-fatigue. Alors, très sincèrement, soyez rassurés, n'allez pas vous gaver de n'importe quoi. La meilleure des thérapies anti-fatigue, c'est tout simplement le sommeil en quantité suffisante, sachant que par 24 heures, 5 heures est le strict minimum et l'idéal, 8 heures. Et au cas où vous ne le sauriez pas, dormir trop raccourcit la vie, contrairement à ce que vous pourriez croire. Dormir 10 heures, c'est déjà trop, dormir 12 heures, c'est une catastrophe, vous êtes sûr de vieillir et de mourir 20 ans avant l'heure que normalement vous avez d'assigner, parce que chacun a son heure fixée. Et c'est pas parce que vous allez vous gaver de vitamine C, de fer et de magnésium que vous allez arranger les choses si vous ne mangez pas bien et que vous ne dormez pas suffisamment. Conclusion, commencez par avoir une vie bien organisée, ne trichez pas en vous gavant d'aliments bardés de vitamine C ou autres soi-disant aliments boosters pour résister à la fatigue, ce qui va finir par vous abîmer terriblement si vous ne dormez pas suffisamment.
Enfin samedi, docteur Delabo, pour résister aux pulsions sucrées, mangez moins sucré.
Oui, a priori, ça paraît une bonne idée. Mais quand j'ai lu que pour ça, il faut manger du chocolat noir et, ajoute la nutritionniste, pourquoi pas du chocolat blanc, je saute au plafond. C'est vraiment choisir d'être pendu au lieu d'être ébouillanté. Le chocolat étant encore pire que le sucre quand on absorbe trop, car dans ce cas, il va finir par abîmer terriblement le foie. Arrêtez de vous gaver de chocolat les uns et les autres sous prétexte que c'est un excellent aliment. Je ne sais pas quel est le marchand de cacao qui a lancé cette idée-là. C'est un peu comme l'histoire de buvez du lait, demandez de France ou manger du beurre, etc., etc. C'est idiot de manger trop de chocolat. Ça n'est pas un véritable aliment.
Mais c'est quoi trop?
Trop, c'est plus de 30 grammes par jour.
Si on n'a pas 30 grammes, c'est pas beaucoup. Hein,
si on n'a pas, c'est le maximum. Si on n'a pas de cholestérol, si on a une cholestérolémie génétique, c'est pas compliqué, c'est pas du tout. Si on a une hypercholestérolémie fonctionnelle, il faut d'abord commencer par guérir son hypercholestérolémie fonctionnelle, parce que ces hypercholestérolémies là, qui sont de votre faute parce que vous avez mal mangé, heureusement pour vous, parce qu'il suffit que vous remangiez correctement pour que ça disparaisse. Donc tant mieux. Mais tant que vous avez besoin de perdre le bedon que vous avez ramassé, le tour de taille important que vous avez et la stéatose hépatique en prime, ne bouffez pas du chocolat, attendez d'avoir retrouvé la forme et puis ensuite n'en mangez pas n'importe quand, n'importe comment et surtout pas du blanc. Mmh. Conclusion.
Conclusion.
Il est vrai qu'il ne faut pas manger trop sucré, mais pour ça, il suffit tout simplement, comme je l'ai expliqué à ma conférence dans le cadre de la journée zen du journal Elle, samedi dernier, de manger suffisamment de protéines le matin et le midi, ce qui vous permettra de ne plus jamais avoir faim dans la journée, donc de ne pas avoir besoin, ne pas ressentir ce fameux petit creux qui ne devrait pas exister et qui, de toute façon, arrivera en fin de journée et devra être compensé par un goûter bien équilibré.
Bon, 30 grammes de chocolat, ça fait combien en barre? Parce que...
Ça fait 3 carrés.
Ah oui, non, 3 carrés, c'est pas du tout beaucoup, 3 carrés. 3 carrés, enfin.
3 carrés de chocolat noir équivaut, au point de vue santé, à la consommation d'un verre d'alcool par jour. Mais... C'est pas beaucoup un verre de vin, hein. C'est pas beaucoup, hein. La plupart des gens, mes docteurs, vous rendez compte, j'en prends qu'un, tu parles, j'en prends qu'un. Mmh. C'est un de trop.
Quand c'est tous les jours. Alors, donc, 3 carrés de chocolat, c'est la quantité maximale qu'on devrait manger par jour, en fait.
C'est la quantité maximale si on en mange tous les jours. Mmh. Et l'idéal, c'est de faire comme avec les boissons alcoolisées pour ceux qui boivent, ne jamais boire qu'au repas de fête et ne pas boire en dehors. Point. Voilà. Mmh.
Alors, 3 carrés, ça fait, pour le coup, c'est vraiment très très peu. Hein.
Hier, j'ai mangé une choucroute alsacienne, oui, avec de la bière, du vin blanc et du vin rouge. De là, ma voix un peu bizarre aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça, docteur Delabo.
Bien, j'ai pas dîné hier soir, hein, c'était hier midi, hier soir. Bon, couche dodo, couche panier, papa t'en rond. Hein.
Bon, docteur Delabo, vous répondrez aux questions des auditrices et des auditeurs de Beurre FM au 01 53 48 3000. 01 53 48
3000.
Et on reviendra dans un instant. sur cette fameuse polémique qui n'en finit plus, sur la viande, la consommation de viande, docteur Delabo, et de viande rouge, oui. Est-elle un risque? Il favorise-t-elle le cancer? On verra dans un instant.
Non, c'est fou.
À travers une vidéo que j'ai vue sur Télématin la semaine dernière. Donc, on verra si finalement, il vaut mieux bannir la viande définitivement.
Il y a un biais dans cette étude.
Bien, 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Docteur Delabo répond à vos questions dans un instant, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Docteur Delabo, en 10 ans, la consommation de viande par les Français a baissé de 12%.
Ouais, c'est pas une bonne nouvelle.
Et les habitudes sont en train de changer. Alors, manger de la viande serait-il dangereux pour la santé? Et s'il n'en restait qu'un, si c'était vous?
Oui et non.
Alors, on y va. On commence par...
Le oui ou non? Non, on va commencer par le oui.
Oui, c'est mieux. Ça,
bon,
c'est
si on en croit le professeur Kayat, qui a fait une émission, qui sévit sur les ondes depuis une semaine, on ne doit plus manger de viande du tout.
C'est pas ce qu'il dit exactement.
Il a dit, on ne doit pas manger trop de viande. Là, je le rejoins. Manger de la viande, et particulièrement des viandes en sauce ou des viandes rouges le soir, n'est pas une bonne idée, parce que l'organisme n'est pas adapté pour manger ça avant de dormir. Mmh. On va abîmer nos reins. On n'abîmera pas notre intestin ni notre foie, ça c'est une vaste rigolade. On va abîmer nos reins, c'est sûr. Parce que ce sont des viandes qui vont produire plus de déchets que les autres aliments. Mais, à côté de ça, si on mange la viande en quantité normale correspondant à vos besoins réels et qu'on la mange le midi, alors pourquoi pas le matin tant qu'on y est? Ben non, parce que le matin, c'est le fromage qu'il faut manger, puisque le matin, on doit amener des gras saturés et que le midi, on amènera avec des protéines légères le matin et on amènera le midi des protéines lourdes avec des gras monoinsaturés.
Donc, docteur Delabo, le bon moment pour manger de la viande, c'est donc le midi.
Et alors, la quantité,
première question, parce que sur la question, il y a une question de quantité. Toutes les indications aujourd'hui, toutes les études qu'on nous donne, notamment l'Institut de recherche sur le cancer, qui recommande de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine.
Ça n'a pas de sens.
Quelle serait, selon vous, la bonne quantité de viande rouge, hein, je parle de viande rouge, par semaine?
La quantité maximale pour un sportif de haut niveau, la quantité recommandée pour un, ce que je recommande, ça n'appartient qu'à moi.
Voilà.
Pour un sportif de haut niveau, c'est sa hauteur en centimètres plus 100 grammes le midi. Et on s'aperçoit que c'est un minimum, que ça n'est pas suffisant, puisque ces messieurs ou ces dames trouvent le moyen de supplémenter avec des protéines qui ne sont pas forcément des protéines saines et qui sont cancérigènes. Entre parenthèses, cancer du rein et cancer de etc., par ces protéines qui ne sont pas des protéines normales. Mais la quantité de viande minimale pour qu'un être humain survive correctement et soit en bonne santé, c'est sa hauteur en centimètres en viande rouge. C'est-à-dire...
Là, on ne parle pas de viande blanche.
Hein, 1m70, 170 grammes de viande rouge pesée crue, c'est le minimum nécessaire et suffisant pour avoir un corps en bon état, ne pas être fatigué, mais c'est sous condition de ne plus avoir énormément d'exercice, c'est donc la quantité recommandée pour des gens totalement sédentaires ou sédentarisés. Sachant que si vous avez quelqu'un de sédentarisé par force, c'est pour une affection, une intervention, une fracture, la quantité de viande devra être augmentée pour qu'il puisse réparer ses tissus musculaires et ses os. Et que si l'on ne lui en donne pas assez, il cicatrisera très lentement. J'ai été opéré il y a 2 ans de l'intestin. On m'a enlevé 33 cm d'intestin, de gros intestin. J'ai cicatrisé. Mes cicatrices cutanées ont disparu sur la peau, ont disparu en 4 jours. Et on ne voit pratiquement plus rien. Or, j'avais déjà à l'époque quand même 74 ans, et le chirurgien, quand il a vu à la vitesse à laquelle je cicatrisais, est resté, pardonnez-moi l'expression, sur le cul.
Alors là, on est quand même au-delà des 500 grammes préconisés par semaine, largement.
500 grammes, c'est insuffisant, c'est ce qu'on donne dans les cantines à des gamins de 19 ans. Alors, le drame quand vous faites ça, c'est que, sans le vouloir, messieurs les décideurs et messieurs les intendants, vous condamnez ces enfants-là à se gaver de sucre lent, et vous en faites des obèses, avec du diabète, avec tout ce que ça peut déclencher comme effet secondaire. Ça, c'est bien connu. Il est bien connu que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et en toute amitié vis-à-vis du professeur Kayat, qui est médecin comme moi, je dis attention, vous ne savez pas dans quoi vous entrez. Vous allez donner aux enfants, aux adolescents en croissance, une alimentation qui va les abîmer. C'est ce qui est en train de se produire.
Alors, deuxième accusation de la viande rouge, ce qu'on appelle le fer héminique, c'est ça?
Oui. Le fer héminique.
Alors c'est le fer en gros, hein. Le fer héminique.
Non, c'est pas le fer en gros, c'est très simple. Il y a un fer non héminique qui est un fer Fe2+, qui a deux molécules d'oxygène, et le fer héminique qui a trois molécules d'oxygène.
Alors le fer héminique, c'est celui qui donne la couleur rouge à la viande.
C'est un et deux ou deux et trois, mais je m'en fous. L'important c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus oxydé que l'autre, et comme il est très oxydé, il est très bien assimilé.
Voilà. On peut pas. Donc celui-là, le fer héminique, donc qui donne la couleur rouge à la viande. On l'accuse pendant la digestion de se transformer par oxydation en un composé toxique. Et que c'est donc...
Mais non, c'est pas un composé toxique. Il entre dans l'hémoglobine. Si tu n'as plus d'hémoglobine, tu ne vis plus parce que tu ne respires plus, mon ami. On ne respire que grâce... C'est ce qu'on appelle les andins, par exemple, ont des globules rouges absolument gigantesques et ils absorbent le plus possible d'oxygène avec leurs globules rouges. Et on ne peut pas les descendre au niveau de la mer, on les tuerait. C'est arrivé une fois, il y a un andin qui est descendu avec une exploration, et le pauvre homme, arrivé à 1500 mètres, d'un seul coup, il s'est écroulé, il est mort. Parce que il était fait pour vivre à plus de 5 ou 6 000 mètres d'altitude, et au-dessous de 1000 mètres, son sang a littéralement explosé. Exactement, un petit peu comme dans l'histoire de Mars, vous savez, seul sur Mars, où vous les voyez... Bon, c'est un petit peu la même chose.
Bien. Donc, finalement...
Il faut de l'hémoglobine.
Pour vous, docteur Delabeau, le fait de manger... de la viande rouge en bonne quantité, hein,
en quantité normale, en quantité utile,
n'est pas un facteur qui favorise l'apparition de cancer.
Pas du tout, ni alors l'apparition de cancer. On a il y a deux sortes de cancers dont on accuse la viande. C'est le premier. Et ça, c'est de la voix du professeur Kayat, je trouve ça assez amusant, c'est dire que comme on a beaucoup de fer, on va avoir un cancer. Ce que ne dit pas le professeur Kayat, qui le sait très bien, c'est que le fer peut provoquer dans le foie ce qu'on appelle une stéatose. Ensuite, vous avez l'apparition d'une fibrose, le fibrose hépatique, qui est destinée, parce que le fer s'accumule beaucoup trop dans le foie, et ça conduit à la cirrhose hépatique, qui est, comme tout chacun le sait, mortelle, ou à un cancer du foie. Bon. Ça, c'est l'hyperaccumulation. Elle est causée, cette accumulation, par, et c'est la même chose pour les cancers du côlon et du colorecto, par l'association de fer et d'alcool. Si vous mangez de la viande rouge, vous ne devez pas boire de vin en même temps. C'est ce que je fais depuis des années. Je n'ai aucun problème de santé. J'ai un foie épouvantable parce que j'ai une hypercholestérolémie génétique et une hypertriglycéridémie mixte. Si par extraordinaire le professeur Kayat m'entend, il saura ce que c'est. C'est-à-dire que le moindre écart dans mon alimentation peut me provoquer des hypercholestérolémies hyper dangereuses et même mortelles. Donc, ne pas croire que parce que vous allez manger de la viande, vous allez esquinter votre intestin.
Rouge, on parlait de la viande
revanche,
rouge.
La viande rouge. Ce qui m'amuse un peu, c'est que c'est valable pour toutes les viandes. Si tu manges du boudin noir, au lieu de manger de la viande rouge, c'est encore pire. Si tu manges du foie, c'est encore pire que de manger. Philippe.
Là, on vous parle pas d'abord. On parle de viande blanche. Le boudin noir,
finir,
personne n'en mange.
Vous n'en mangez pas, mais moi j'en mange. Laisse-moi finir. Il y a des aliments qui contiennent encore beaucoup plus de fer que la viande rouge. Le foie, tous les abats, tous les foies contiennent beaucoup plus de fer que la viande. Mais on n'en parle pas. Le boudin noir, je suis désolé, mais c'est un aliment de base pour les populations non-croyantes ou chrétiennes, et contient énormément de fer, et pour cause, c'est du sang. Donc, il y a des aliments qui contiennent beaucoup plus de fer que la viande rouge. Alors, à ce moment-là, commencez par dire, s'il vous plaît, ne mangez plus jamais de foie, ne mangez plus jamais de rognon, ne mangez plus jamais de boudin. Ce sont les aliments que je conseille, quand on peut les conseiller, à des gens qui sont en anémie profonde. Parce que, avec cette plaisanterie de la viande qui soi-disant donnerait le cancer, on voit apparaître dans la clientèle énormément d'anémies. Et les anémies sont dangereuses à la longue. Je vois une cinquantaine de patients par semaine, un petit peu plus quelquefois. Je peux vous assurer que sur les 50, je vois de plus en plus de cas d'anémie. Parce que les gens ont la trouille, parce qu'on a réussi à leur faire peur en leur disant ne mangez plus de viande, pour des raisons qui sont des raisons purement économiques, et mais pas des économies malheureusement saines et vertueuses, mais des économies frauduleuses, parce que ce sont les industriels agroalimentaires qui ne veulent pas qu'on mange de la viande.
Alors,
on vient à partir de ce principe-là.
Alors, docteur Delabois, est-ce qu'on peut remplacer la viande rouge par la viande blanche ?
Mais non, c'est pas pareil. On peut manger de la viande blanche et des abats, par exemple. Mais dans ce cas-là,
Pourquoi c'est pas pareil ?
Un apport suffisant de fer pour que les globules rouges se reproduisent. Il faut savoir qu'en 4 mois, vous avez refait complètement votre capital de globules rouges. Vous allez les fabriquer avec quoi, vos globules rouges, si vous n'avez pas de fer ? Eh ben, vous n'allez pas les fabriquer, figurez-vous. C'est comme ça que je vois actuellement la plupart des beaucoup de femmes qui sont devenues végétariennes ou végétaliennes ou qui ne mangent que de la viande blanche parce que la rouge c'est l'horreur et qui ont un déficit en globules rouges important, qui sont essoufflées, qui sont incapables de monter un escalier. Et oui, mesdames, si vous avez du mal alors que vous n'êtes pas très grosse à monter un escalier, ne cherchez pas. Vous avez une insuffisance de production de vos globules rouges et vous respirez mal. Et comme vous respirez mal, le moteur s'emballe dès qu'on lui demande un effort. Ah! Là, ça va en apprendre pas mal à pas mal de gens. Il faut quand même comprendre comment fonctionne le corps humain avant d'aller oser donner des affirmations qui peuvent être plus dangereuses qu'utiles.
Bien.
La différence entre tous ces chercheurs et moi-même et tous les cliniciens que je représente aujourd'hui et à qui je dis, j'envoie toutes mes amitiés, c'est que nous sommes sur le tas. C'est que nous voyons des millions de gens sans arrêt, les uns et les autres, que nous avons une expérience qu'aucun autre médecin ou chercheur ne pourra avoir. Et le drame, et c'est mon frère qui est médecin et qui le disait, et qui le dit encore, parce que Dieu merci il est en vie, bien que retraité, eh bien, l'erreur que font la plupart des centres de recherche, c'est de ne pas avoir un tout bête médecin généraliste avec eux, qui aurait une expérience importante et qui pourrait leur dire, attendez, là, non, ça, je suis désolé, mais je l'ai vu 10 000 fois, c'est pas ça. Parce que l'expérience, quoi qu'on puisse en dire, est irremplaçable.
Est-ce que, finalement, la question ne revient pas à parler de la qualité de la viande, tout simplement ?
Mais non, on s'en fout.
Bah, si, quand même.
Tu l'achètes chez Lidl, c'est toujours de la viande. Hein.
Oui.
Elle est moins bonne, c'est tout. Mais elle est moins chère. Mais c'est de la viande.
Parce que le message qu'on fait passer aussi, et que enfin, en tout cas, aujourd'hui, qui est véhiculé aujourd'hui, c'est manger moins de viande, mais manger mieux de la viande, quoi, finalement. C'est ça que ça veut dire.
Moi, c'est pas tellement intéressant, ça. C'est pas, il y a une question de survie. Je pense à tous les gens qui ont des petits moyens, auxquels je conseille de manger des fromages à 6 euros le kilo, qui sont tout aussi nourrissants que ceux à 24 euros. Mmh. De manger de la viande qu'ils vont trouver chez Lidl. D'accord, elle est moins bonne, mais elle aura le mérite de les nourrir correctement. Et de cesser de croire qu'on peut manger des faux aliments et se nourrir correctement.
Bon, alors, pour vous, docteur Delabeau, oui. Manger de la viande rouge, ça n'augmente pas les risques de maladies cardiovasculaires.
Si on en mange une quantité raisonnable. D'ailleurs, c'est ce que, quand même, a sous-entendu le professeur.
C'est ce que dit Cayette, il dit, il faut en manger. Il parle de ceux qui en mangent de façon exagérée.
Oui, voilà. Mais l'erreur qu'il fait, c'est de dire qu'il en faut 500 grammes par semaine, je suis désolé.
Non, c'est pas lui, c'est pas lui, hein. C'est un institut de recherche sur le cancer, qui donne ses recommandations. C'est la recommandation, c'est 500 grammes de viande rouge par semaine.
Tu vois, Philippe, le drame. Ce qui est dramatique dans cette histoire-là, c'est qu'on vous recommande de manger beaucoup moins de viande, alors qu'il faudrait qu'on vous recommande de ne pas boire dans la semaine et de ne jamais boire d'alcool en même temps que qu'on mange de la viande. Mais
peut-être que les lobbies du vin sont peut-être
exactement,
plus...
t'as tout compris, c'est bien, t'es intelligent. Les lobbies du vin étant extrêmement puissants, il n'est pas question d'aller gêner les lobbies du vin. Mais comme les cultivateurs, les éleveurs, on n'en a rien à tirer... Allez, tapons sur la viande au lieu de taper sur l'alcool. L'ennui, c'est que ces gens-là continueront à boire de l'alcool, avec de la viande blanche ou avec autre chose, et qu'ils feront de toute façon leur cancer du côlon et leur cancer colorectal, et qui feront leur cirrhose, et qui feront soit le cancer du foie, soit une cirrhose carabinée. Et on aura tapé à côté, et on aura tapé là où il ne faut pas, au lieu de taper là où il faudrait. Je dis qu'on devrait boire une fois par semaine des très très bons vins, que nous serions capables d'exporter dans le monde entier des vins d'une qualité très supérieure. Nous sommes en train de perdre notre place de premier producteur en qualité mondiale, parce que nous vendons trop de vins qui ne sont pas d'une qualité importante. Il faut axer l'effort sur des produits de luxe. C'est l'avenir.
Le docteur Delabeau va répondre à vos questions dans un instant. Le standard à votre santé est à votre disposition. Si vous voulez parler au doc, je donne le numéro et je vous laisse répondre, docteur Delabeau. 01-53-48-3000. Vous avez levé le doigt.
Oui, parce que je voudrais rajouter que si on fait de vins de bien meilleure qualité et coûteront beaucoup plus cher, on pourra donc pas en boire autant.
Allez, 01-53-48-3000. Vos appels au doc dans un instant.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Vous posez vos questions, docteur Alain Delabaume. Bon, vous avez compris qu'il fallait manger de la viande rouge en quantité conseillée.
En quantité.
J'ai pas osé dire raisonnable, j'ai dit conseillée.
En
voyez.
Quantité recommandée et en quantité utile pour votre survie, votre bien-être et votre santé.
Bien. 01.
Soyez clair, net et précis.
C'est très clair, docteur Delabaume. 01 53 48 3000. Karim est avec nous. Karim, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Bonjour Karim.
Bonjour Karim.
De l'amour. Oui, bonjour. Donc moi je vous ai appelé il y a 2-3 semaines, je sais pas si vous vous rappelez de moi.
Qu'est-ce qu'on avait vu ensemble Karim ?
On avait vu que moi j'avais un souci quand je mangeais beaucoup de fromage, je buvais du lait, le café le matin.
Oui.
J'avais la tête qui tourne, des vertiges, tout ça.
Oui.
Et après, bon, vous m'avez conseillé de ne pas boire surtout le jus d'orange, tout ce qui est jus, ouais. Ça. Ben, ça va mieux, ça va mieux. J'ai arrêté le jus d'orange. Voilà. Après, j'ai constaté que je ne buvais pas beaucoup d'eau.
Oui. Il faut boire 1 demi-litre d'eau à chaque repas, Karim.
Ouais, mais voilà, je buvais beaucoup de tout ce qui est boisson, tout ça.
Ouais. Ah bah ça, c'est pas bon pour l'équilibre.
Et donc voilà, j'ai souffert, voilà. C'est pour ça que j'avais beaucoup de vertiges.
Oui. Et ça va, vous n'avez plus de vertiges ?
Là, ça y est, ça commence à partir.
Parfait.
Alors, il n'y a pas de problème.
Faites attention surtout à ne pas reboire du lait ni manger aucun aliment lacté, s'il vous plaît, mais à garder comme aliment principal dans les laitages, puisque c'est un laitage, c'est le meilleur de tous les laitages, garder le fromage le matin, c'est très important.
Ouais, j'essaie de faire comme ça.
D'accord.
Après, au niveau de la viande rouge, franchement, j'arrive pas avec la viande rouge. Je mange beaucoup de viande blanche, mais la viande rouge, j'arrive pas.
Alors, il y a une chose pour savoir si tout va bien. Et ça, c'est un message que je vous adresse à tous et à toutes en même temps, ouais, qu'à vous. C'est tout simplement faire par votre médecin traitant une simple numération formule sanguine. Ou votre sang est en bon équilibre et il n'y a pas besoin de vous tracasser, comme vous mangez, ça va. Ou vous avez une anémie et dans ce cas-là, il faut augmenter la quantité de viande et particulièrement de viande rouge. Ou vous avez ce qu'on appelle une polyglobulie, auquel cas il faut la diminuer. C'est pas difficile. Il faut juger sur preuve, si vous voulez, parce que ça sert à rien d'affirmer, de pas affirmer. Ce qui est utile, c'est de savoir si oui ou non le corps est en bonne santé et c'est très facile à vérifier.
D'accord. Est-ce qu'on peut remplacer la viande rouge par autre chose ?
Vous me posez la question à laquelle je viens de répondre en vous disant vérifiez d'abord si votre hémoglobine glycosylée, ça c'est autre chose, mais si votre hémoglobine glycée est bien, si vous avez surtout, parce que ça c'est pour le taux de sucre, si vous avez surtout suffisamment de globules rouges et si le volume de vos globules rouges est normal, vous saurez alors si comme vous mangez actuellement c'est bien ou s'il faut augmenter la viande ou si vous pouvez vous permettre de la diminuer au cas où vous auriez ce qu'on appelle une hyperglobulie. Là, il suffit de demander à votre médecin traitant, il vous expliquera ça très très bien.
D'accord, merci en tout cas.
Voilà mon ami.
Bon Karim, bonne route.
Et merci pour les bonnes nouvelles que vous nous donnez Karim, ça me fait très plaisir.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au plaisir, Karim. Sabrina est au 01 53 48 3000. Sabrina, bonjour et bienvenue. Sabrina.
Bonjour.
Bonjour, Sabrina.
Bonjour, Philippe. Bonjour, docteur.
Bonjour, Sabrina.
J'appelais, j'avais une question.
Oui.
J'aurais voulu savoir quelle est la bonne façon de manger pour une personne qui a eu une ablation du côlon suite à une sigmoïde.
Oui. Un problème de sigmoïde. Bon, bienvenue c'est dans ça. Le club. Moi, c'était un peu plus haut, le mien. Et le sigmoïde, c'est un peu plus embêtant parce que ça modifie malheureusement le transit et surtout l'exonération, comme on dit, en termes techniques. Mais l'alimentation reste exactement la même que pour n'importe qui. Simplement, parce qu'à partir du moment où on a enlevé la partie qui était malade, le reste de votre intestin est sain, donc il fonctionne tout à fait normalement. N'ayez plus peur. Hein. Surtout, ne vous faites pas peur inutilement. Moi, on m'a enlevé un grand bout d'intestin, ça va très bien, au contraire, et ça n'allait pas bien du tout avant qu'on me l'enlève. Donc, tout baigne, tout va bien. Et ça n'était pas à cause de la viande, c'était tout simplement des diverticules, ce qui n'a rien à voir avec la consommation de viande.
Méfiez de ces mots comme ça.
Voilà.
Bien, alors pour Sabrina...
Alors, Sabrina, en fait, mangez, ben, suivez la chrono tout à fait normale. Ce que je vous conseille, vous avez peut-être lu mon dernier bouquin, La Nouvelle Chrononutrition. C'est un petit livre qui va vous permettre de gérer votre alimentation au mieux, de suivre mes conseils, et vous aurez la possibilité de faire exactement les choses comme il le faut, sans vous martyriser, sans inventer un tas de trucs, et en restant naturel. Surtout, ne vous mettez pas à un régime quel qu'il soit. La chrono normale n'est pas un régime. Il y a des régimes chrono pour les gens ayant un trouble métabolique, c'est-à-dire trop de cholestérol ou du diabète ou l'hypertension, etc. Mais si vous n'avez rien de tout ça, le fait que vous ayez un bout d'intestin en moins n'est absolument pas gênant. Vous pouvez manger comme tout le monde.
D'accord. Parfait. Tout ce qui est épices, c'est pareil.
Pardon ?
Les épices. Alors, c'est une bonne question, ça.
Les épices, les épices, si on en abuse, sont dangereuses pour tout le monde. Pas que quand on a... Bah, bien sûr. Évitez les épices. Excusez-moi, évitez la moutarde, évitez les vinaigres d'alcool, les vinaigres forts, les vinaigres, même les vinaigres de cidre.
Ah, vous savez.
Peuvent être dangereux, excusez-moi. Mon chat est en train de se manifester dans la gorge.
Mais les épices, après.
Mais les épices, ça dépend. Il y a des épices douces et des épices dures. Vous avez
vous pensez à quoi, Sabrina, vous?
Bah, plutôt tout ce qui est poivre, paprika.
Alors, le paprika, ça va, c'est pas très, très épicé. Mais la harissa, par exemple, je vous conseille pas. C'est pimenté. Tout ce qui est piment, tout ce qui est poivre dur.
Le piment vert, oui, voilà.
Oui, vous avez des poivres doux, hein. Vous avez le poivre de Guinée, c'est très doux. C'est pas un poivre. C'est d'ailleurs pas réellement du poivre. On appelait ça le poivre de Guinée. Bon. Vous avez des piments. Faut des piments doux, si vous voulez. Vous avez des piments doux qui sont très bons et qui donnent du goût. Vous avez des épices qui sont très douces. Donc, choisissez et vous allez, alors, si vous voulez vraiment être renseigné, vous allez chez quelqu'un qui vend ses épices et il va vous expliquer, il vous dira ça, si vous voulez pas des épices dures, ça je veux pas, ça il vaut mieux pas, ça il vaut mieux pas.
D'accord, donc évitez les épices dures, c'est ça?
Mais oui, évitez ce qui, si vous voulez, quand on a eu un problème d'intestin, on évite ce qui pique, ce qui gratte et qui colle.
C'est simple, ce qui pique, qui gratte et qui colle.
C'est facile. Et si vous voyez que quand vous mangez des féculents, vous avez le ventre qui gonfle trop, eh bien c'est très simple, vous prenez la quantité qui correspond pour vous, et vous la mixez.
Alors, c'est quoi un aliment qui gratte?
C'est tous les, comment dirais-je,
les choux,
crudités. Ça gratte pas le chou, ça fait péter. Les crudités, les trucs en morceaux, je parle de mon problème particulier de diverticulose, qui s'est transformé en diverticulite. Il faut éviter tous les aliments qui sont moulus, mais pas suffisamment, comment dirais-je, mixés.
Alors, et qui colle, c'est quoi les aliments qui collent, par exemple?
Le riz collant.
Le riz collant.
Moi, je déteste le riz collant.
Mais le riz pas collant?
Le riz pas collant, ça dépend. Il faut pas le prendre. Il faut éviter de manger ce qu'on appelle al dente. C'est la grande mode depuis quelques années. Ça fait un bail, ça fait une génération. Qu'on dit, vous mangez al dente. J'ai appris ça, j'avais 40 ans à peu près. On mange al dente. Bon, moi, je trouvais ça parfaitement dégueulasse parce qu'on faisait rien cuire.
Il faut que ça. C'est conseillé en plus, c'est de manger al dente.
C'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Je suis désolé, j'en ai pas fait exprès. Je savais pas quand on l'avait dit.
C'est pas une bonne idée pour l'intestin.
Non, c'est pas une bonne idée pour l'intestin. Al dente, ça veut dire pas suffisamment cuit.
Et pourquoi c'est pas une bonne idée?
Parce qu'il faut cuire suffisamment pour que son intestin ne fasse aucun effort quand ça va passer dedans.
C'est-à-dire que quand c'est pas cuit, il fait plus d'efforts pour le digérer, c'est ça?
Bien sûr. Et puis surtout, ça le gratte, ça le pique. Ça gratte. Donc, si on mange, faut pas manger trop cuit, c'est-à-dire collant. Il faut pas manger trop cru, c'est-à-dire piquant.
D'accord.
Bon.
J'ai bien compris.
On vous fait un gros bisou, Sabrina.
On vous fait un gros bisou, Sabrina. Et merci, c'est très intéressant la question.
Bonne semaine. Youssef est avec nous.
Bonjour, Youssef.
Youssef, bienvenue.
Youssef. Oui, bonjour, docteur. Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va et vous?
Ah oui, en pleine forme, malgré mon chat. Là, ça y est, la bête a dû s'endormir, c'est plus tranquille. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça faisait un raffut.
C'était un peu diesel. Youssef, quelle est votre question, docteur Delabo?
Écoutez, vous avez peut-être dû en parler, je ne sais pas quand, mais je ne suis pas forcément à l'émission tous les jours. Mais c'est à propos des œufs. Du coup, œufs et cholestérol.
Ah, bonne question.
Ah oui, intéressant ça. Vous avez entendu, j'en ai parlé tout à l'heure.
Alors, quelle est votre question, Youssef, vous concernant précisément?
Me concernant, sachant que je suis une diète, je suis un peu sportif, je suis une diète un peu
protéinée
entre guillemets. Est-ce que le fait d'en consommer tous les matins, est-ce que c'est nocif pour ma santé ou pas?
Alors, c'est le moment le meilleur pour manger des œufs, c'est le matin, parce que l'albumine ne va pas abîmer vos reins si vous en mangez, si vous mangez des œufs le matin.
Alors, vous en prenez combien, vous, pour qu'on puisse savoir?
Moi, j'en suis à 3 pour l'instant.
3 jaunes d'œufs, c'est ça?
3 jaunes, 3 blancs.
3 œufs.
3 jaunes. 3 œufs complets.
Alors, tout dépend, si vous voulez, il y a des gens qui, malheureusement, comme c'est mon cas, ont un cholestérol génétique, et le jaune d'œuf, ils le supportent très mal. Bon. Vous faites simplement, vous vérifiez votre cholestérol, votre LDL et votre HDL. Si vous mangez ça depuis un bon moment, si tout va bien, eh ben, ça porte souci, ça veut dire que vous pouvez continuer sans aucun risque. Ce que je dis toujours, c'est il faut contrôler pour avoir la preuve qu'on est dans le top ou pas. Ne jamais croire qu'on peut s'inventer des trucs sans avoir des raisons précises de le faire et des raisons de constater. Le boulot d'un médecin qui connaît son métier, c'est de constater et de conclure après avoir constaté, jamais avant.
Vous, c'est tous les jours de la semaine, Youssef ?
Alors, tous les jours de la semaine.
Oui.
Oui, exactement, tous les jours de la semaine. Après, pour ce qui est bilan, mais le problème, c'est que où aller pour faire un bilan complet, enfin un bilan de santé ?
Ouais, c'est une bonne question.
Aller où, par exemple ?
Alors, écoutez bien, vous voulez un bilan de santé complet, vous allez sur contact@irens.fr.
L'INRS, oui, je connais. L'INRS.
Bon, eh bien, vous allez sur l'IREN, vous dites à Maya, puisque c'est Maya qui pilote, vous lui dites, le doc, pendant son émission, m'a conseillé de faire un bilan complet, il m'a dit que vous me l'enverriez.
D'accord.
Et ouais, vous recevrez le bilan complet, vous n'aurez plus qu'à le montrer à votre médecin traitant.
D'accord. Et c'est un bilan qui, vraiment un bilan complet.
C'est un bilan nutritionnel. C'est pas un bilan complet du corps entier. C'est un bilan nutritionnel.
Et qu'est-ce qu'on vérifie dans un bilan nutritionnel? C'est intéressant,
ça,
Doc.
On vérifie le fer, notamment. On vérifie la ferritine. On vérifie l'annumération formule sanguine. On vérifie le bilan du cholestérol. On vérifie le bilan du pancréas, c'est-à-dire pancréas exocrine et pancréas endocrine. Pancréas endocrine, c'est celui qui gère la glycémie. Le pancréas exocrine, c'est celui qui gère les aliments végétaux. Et on contrôle également, bien entendu, la thyroïde et on contrôle les reins.
Bien. Il y a un bilan que plus personne ne prescrit, mais que vous prescrivez tout le temps. C'est lequel, docteur Delabeau? C'est le fer, c'est ça, hein?
Le fer, parce que c'est très important de savoir si on a trop de fer ou pas assez. C'est pour ça que j'écoutais ce matin, j'ai écouté ce qu'a raconté le professeur Kayat avec beaucoup d'intérêt, parce qu'en fait, le bilan du fer nous dit si oui ou non il y en a trop, et il m'arrive de supprimer complètement la viande rouge chez des gens ayant une hypersidérémie, c'est-à-dire trop de fer dans le sang.
Et Youssef, vous habitez où, vous?
Moi, j'habite à Agnières.
D'accord.
Dans
92.
Vous êtes tout près de chez moi, là.
Dans 92.
Sûrement.
Oui, je suis à Rouen. Agnières-Rouen, c'est la porte à côté.
Oui.
Bien.
C'est pas tout près, mais bon.
Non, et par le train, ça va tout seul. Hein. Et sachez que le 22 à Agnières est plus loin que New York. Vous savez pourquoi?
Pourquoi?
Bah, vas-y, Philippe, dis-lui.
Je suis pas sûr. Quel âge a Youssef?
C'est un jeune, il a 30 ans.
Il est super jeune. C'était un sketch très connu, hein, le 22 à Agnières.
C'est... Ah non, je connais pas.
C'était quel comique qui racontait ça?
C'est Fernand Reynaud.
Fernand Reynaud qui disait, il essayait d'avoir le 22 à Agnières, mais c'était les trucs de, tu sais, les téléphones avec les machins, les fiches dedans. Et puis, il n'y avait rien à faire. Il entendait les opératrices appeler New York, appeler Hong Kong, appeler... Alors, il finit par appeler New York, et puis il a New York tout de suite, alors qu'il n'arrive pas à avoir le 22 à Agnières. Et il dit à New York, je pourrais avoir le 22 à Agnières, pas de problème, monsieur.
Alors, Youssef, à 25 ans, regardez sur Internet si vous retrouvez le sketch, et puis tenez-nous informés.
Ça vous dit, ça, je vous assure que c'est très, très marrant.
Ok, je le ferai, sans souci.
Bonne route, Youssef.
Bonne route et bonne journée, Youssef.
Et bon entraînement, puisque voilà, Youssef est en diète protéinée.
Et au revoir à tous, mes enfants,
protéinée.
Parce que j'ai un train à prendre urgemment.
Merci, Youssef, docteur
Delabeau.
Vous étiez
mon petit dernier, Youssef. Au revoir.
Bien, on vous retrouvera la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Et demain, nous parlerons du ver de terre. Et oui, le ver de terre à qui nous allons consacrer toute une émission demain entre 9h et 10h.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.